Bonjour, l'association Bretagne Réunie a lancé il y a quelques mois une pétition afin d'Ixit l'association de demander au conseil départemental de Loire-Atlantique d'organiser une consultation auprès de ses électeurs au sujet de la modification des limites régionales en incluant le département de Loire-Atlantique dans le territoire de la région Bretagne. Lors de sa conférence de presse tenue le 18 janvier 2017 à Nantes, Bretagne Réunie a annoncé le nombre de signatures d'ores et déjà recueillies et indiqué les dates de ses futures actions. L'objectif fixé est celui des 100 000 signatures, ce qui correspond à un peu plus du dixième du nombre total d'électeurs en Loire-Atlantique. Dans un premier temps, nous allons diffuser un extrait de la conférence de presse animée par Paul Loret, Henri Colliot et Stéphane Briand. Dans un second temps, nous interrogerons Stéphane Briand.
La Bretagne, elle communique vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand le Conseil régional de Bretagne fait une campagne d'affichage dans le métro, par exemple, c'est toujours pour qu'on vienne en Bretagne et qu'on découvre la Bretagne et qu'on travaille avec elle. Donc c'est une communication, j'allais dire, vers l'extérieur. Alors que les Pays de la Loire, c'est constamment des campagnes de publicité interne, c'est-à-dire qu'il faut se reconnaître comme Ligérien, et toute la publicité, c'est ça, nous sommes des Ligériens, nous sommes des Ligériens. Et ça, c'est incompréhensible dans un système économique comme le nôtre, qui est en difficulté. Communiquer vers l'extérieur pour exporter son savoir-faire, son savoir-être, etc., ça c'est important. Aujourd'hui, dépenser des millions d'euros pour se créer une nouvelle identité, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il y a d'autres priorités que celle-là.
Et pour revenir à ce que ça fait partie... Attends, excuse-moi. Le dernier, puisqu'on parlait d'intérêt aujourd'hui pour les gens de Loire-Atlantique, cette réunification, moi, j'en vois un énorme. C'est effectivement le démantèlement des Pays de la Loire. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement nous parle d'économie, nous demande de nous serrer la ceinture. C'est ce qu'ils ont fait en fusionnant des régions. Dans la théorie, on devrait faire des économies. Eh bien aujourd'hui, faisons des économies de trois petites régions, faisons-en deux. On va déjà économiser beaucoup de frais de fonctionnement sur une région. C'est ce qu'ils ont voulu faire.
Le Rotaillot ou Jean-Yves Le Drian de céder son fauteuil.
Comment?
Président de la région, il faudrait...
Ah bah, ça dérangera.
Quel capital aussi pour la région?
Ah bah, ça...
Rennes, Boudin, alors on sait, quand on nous vend le Grand Ouest en permanence, la fusion Bretagne-Pays de la Loire, on pose jamais le problème de capital entre Nantes et Rennes. Par contre, quand on parle de réunification, cette question, comme par hasard, arrive. Vous savez, on est dans une ère maintenant avec les technologies de l'information et de la communication, avec les transports qui sont quand même relativement rapides. La question de capital, c'est quand même assez annexe. Qu'est-ce qui fait la richesse de Nantes? Est-ce que c'est d'avoir un siège administratif avec des fonctionnaires régionaux sur l'île de Nantes, ou est-ce que c'est d'avoir ce maillage économique qui fait l'emploi, qui crée la richesse? Moi, je pense que si Nantes même ne devait plus être capitale un jour, mais on ne sait pas, je ne pense pas que ça serait d'un seul coup la fin des haricots sur la place Nantes, parce que les entreprises partiraient, parce que non, on continuera à se développer, et après, dans une région moderne et puis dans un pays moderne, faut quitter notre façon de penser qui est assez jacobine en disant, centraliste, en disant, eh ben, les capitales régionales, c'est comme Paris, quoi, on accumule à la fois les emplois de haut niveau, on accumule les fonctions médiatiques, les différentes fonctions, et le reste s'écroule et c'est le désert. Non, je pense qu'on doit avoir une pensée plus moderne, voir ce qui se passe en Europe, où en Europe, une capitale économique n'est pas forcément la capitale politique.
Bah, les États-Unis.
N'est pas forcément la plus grande ville.
Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous avez dit qu'il n'y avait pas besoin d'une Bretagne réunifiée pour que certaines entités en Loire-Atlantique prennent le nom de Bretagne, le maître mot, c'est la cohérence. Que ce soit sur le plan judiciaire, économique, etc. On voit la mairie de Nantes, l'office de tourisme, qui se revendique bretonne l'été pour faire venir les touristes, et l'hiver qui fait campagne, entre guillemets, pour les Pays de la Loire. Il y avait lors du congrès des maires en 2009, Nicolas Sarkozy devant tous les maires qui dit « Quand je viens à Nantes, on me dit c'est la capitale de la Bretagne, mais je ne suis pas en Bretagne. » Il avait évoqué aussi les deux Normandies, il y a deux Normandies alors que c'est la Normandie à la base. Le vrai maître mot de la réunification, c'est une cohérence sur le plan économique, touristique.
De toute façon, l'avenir
judiciaire,
il est en termes de région, si on parle d'un éventuel redécoupage de l'ouest de la France, l'avenir... Ça, et M. Retailleau le sait très bien, M. Auxiette aussi, tout le monde le sait, ça sera de couper les Pays de la Loire en deux. Parce qu'aujourd'hui, le Grand Ouest, qu'on nous vend depuis 20 ans, il a été refusé par les Bretons. Et il le sera toujours. Pas forcément les Rennais, mais toute la basse Bretagne. Dites à un Finistérien que demain il s'appellera Grand Ouestien, qui ne sera plus breton, et qui sera obligé, qui sera dans la même région que Le Mans, ou Angers, ça ne passera jamais. Les Bretons ne préféreront rester petite région comme ils sont actuellement que de fusionner avec les Pays de la Loire. Le projet Grand Ouest, cher à Jean-Marc Ayrault, à Johanna Roland, à toutes les élites politiques du 44, plus certains autres, Madame Appéré par exemple, la maire de Rennes, c'est un projet qui ne se fera jamais.
Parce que du coup, les gens ont vu ce qui s'est passé.
Donc il faut faire autre chose.
Parce que les gens ont vu ce qui s'est passé avec l'Alsace, où l'Alsace a disparu corps et âme dans le cadre, maintenant ça s'appelle Grand Est. Alors quelque chose qui vend au niveau touristique. Grand Est de quoi? Grand Est de la France, de l'Europe, du monde. Et là, on voit qu'on est à nouveau dans le marketing territorial. Une région, c'est une histoire, c'est une identité, c'est une part de rêve, c'est des choses qui donnent envie. Grand Est, qu'est-ce que ça veut dire? Les Hauts-de-France, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le Grand Ouest, c'est exactement pareil. D'un seul coup, on fait perdre à nos territoires la chance qu'ils ont d'avoir une richesse particulière et de pouvoir justement mieux se vendre vis-à-vis de l'extérieur en disant, on a notre richesse, vous avez aussi votre autre richesse, mais c'est une plus-value. C'est comme si, là, on avait des bouteilles de Coca, d'un seul coup, Coca disait, je renonce à m'appeler Coca et je change de nom, parce que je fusionne avec Pepsi.
Brest-Cola.
Voilà. Et vous êtes... Allez-y.
D'un autre point de vue, si on prend le point de vue de la Bretagne, quel intérêt aurait la Bretagne?
Alors, ça allait justement y venir, c'est qu'aujourd'hui, la Bretagne a tout intérêt à récupérer la Loire-Atlantique, d'un point de vue économique, d'un point de vue PIB, d'un point de vue nombre d'habitants, puisqu'il y a quand même des subventions européennes aujourd'hui qui sont décrétées par le nombre d'habitants. Mais pourquoi surtout? C'est surtout un niveau économique. Il faut bien comprendre aujourd'hui que le centre de l'Europe est en train de se déplacer vers l'Est. La région Bretagne... elle est debout, c'est le Finistère, hein. C'est le bout du monde, hein. C'est le bout de l'Europe. Si nous n'avons pas, dans notre territoire ici, une région forte, à identité forte, on sait que les régions à identité forte se démarquent des autres, parce que la fierté des gens, c'est d'avoir une certaine identité, qui fait qu'on est dynamique. On est très dynamique en Bretagne et en Loire-Atlantique. Donc demain, une Bretagne forte à 5 départements, pourra sortir son épingle du jeu en Europe.
Et en récupérant son hub naturel qui est le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire.
Voilà. Parce que au niveau européen, il ne faut pas rêver, il va falloir se battre. On est dans un système de mondialisation, dans un système d'européanisation du travail. Hein. On voit bien qu'il y a des délocalisations aujourd'hui en Pologne, comme en Bulgarie, en Roumanie. Si la Bretagne... je compare un petit peu la Bretagne des fois avec l'État de Washington, Seattle. Il y a Boeing là-bas, chez nous il y a Airbus. Eh bien, c'est vrai que Seattle, quand on voit Seattle, c'est le bout du bout de l'Amérique. Mais ils ont réussi à quand même créer un coin des États-Unis qui est très dynamique économiquement. Il faut faire exactement la même chose ici, avec la Bretagne, à 5 départements, pour pouvoir peser en Europe.
Et pour revenir sur, effectivement, le grand port de Breton, c'est Saint-Nazaire. C'est là qu'arrivent les marchandises et qui sont après dispatchées sur tout le reste de la Bretagne. Et le fait que le grand port breton Saint-Nazaire ne soit pas en région Bretagne, ça désarticule aussi complètement l'organisation portuaire de l'ensemble des ports bretons. Et il faut savoir que dans le cadre de la mondialisation dont on parlait, il y a quand même des milliers de ports-containers qui passent tous les ans au large de la Bretagne, qui vont débarquer leurs marchandises à Rotterdam ou à Anvers, et qui vont renvoyer tout ça chez nous par le train ou par le camion. Et à un moment, c'est aussi recréer une vraie région maritime cohérente qui permette de capter une partie du flux maritime qui est lié à la mondialisation.
D'un point de vue économique, je comprends, mais qu'est-ce que vous faites des gens ici qui ne veulent pas du tout être bretons?
Alors,
qui n'ont pas envie d'être en région Bretagne.
Non, alors du coup, à Rennes, en Ille-et-Vilaine, il y a des gens qui ne sont pas bretons, Et je pense pas qu'ils soient plus malheureux. Dans le Finistère, il y a des gens qui sont pas bretons, qui sentent pas bretons,
et
ils
sont pas bretons,
et qui sont pas malheureux. Être breton, en fin de compte, c'est faut relire Morvan Lebesque, hein, qui est un écrivain nantais, qui a écrit aussi dans Le Canard Enchaîné et tout ça. Il a écrit un super bouquin, c'est Essai sur la démocratie française ou comment être breton. Et en fin de compte, être breton, c'est se sentir breton, sentir appartenir à une communauté, mais on n'est pas du tout dans l'exclusion. On va pas demander aux gens de parler breton. Moi, j'ai effectivement déjà entendu des gens qui me disent « Mais oui, tu te rends pas compte, si on rejoint la Bretagne, il va falloir qu'on parle breton. Bah, est-ce qu'en région Bretagne, tout le monde parle breton ?»
Non. On demande pas aux gens d'être breton. On parle de territoire. Un territoire, comme la Loire-Atlantique, peut très bien inclure, enfin revenir en Bretagne administrative, mais ça n'empêchera pas que à Nantes ou à Châteaubriant ou à Clisson, il y aura des Vendéens, il y aura des Angevins, il y aura, je veux dire, c'est multiculturel. Mais c'est pas, on demande pas aux gens de devenir bretons. On n'est pas dans un sentiment d'autonomie, d'indépendance ou de choses comme ça. On est dans un sentiment de réunification, c'est-à-dire de redécoupage des régions d'un point de vue économique.
Mais c'est comme Marseille. La métropole de Marseille se souvent en étant Marseille métropole Provence ou Provence Marseille métropole, je ne sais plus exactement le, et à Marseille c'est un lieu de brassage énorme depuis l'Antiquité, avec des populations qui viennent de tout le bassin méditerranéen et d'au-delà, et pour autant les gens Marseille se réclame provençal. Mais c'est pas dans un but d'exclusion et des autres, c'est de dire voilà, quand vous venez à Marseille,
c'est comme ça, où est-ce qu'on peut les établir?
Quand vous venez à Marseille, vous arrivez sur un territoire qui est en France, mais qui est aussi un territoire provençal. Et voilà. Et c'est beaucoup plus facile à des populations qui arrivent, qui sont immigrées, de s'insérer dans un territoire quand ce territoire, du coup, il a une identité. Vous allez voir dans des fest-noz, vous pouvez voir des personnes d'origine qui sont ni bretonnes ni françaises. C'est une façon plus simple de s'intégrer sur un territoire quand il y a une culture qui existe, une culture qui est reconnue. Et surtout en Bretagne, on a la chance d'être dans une région très ouverte du fait de notre aspect maritime. Le fait aussi qu'on a été sur tous les océans, qu'on a immigré aussi pour travailler, que ce soit à Paris, que ce soit dans le reste de la France ou même en Amérique du Nord. Il y a une culture de la rencontre avec l'autre qui fait que les gens qui viennent d'ailleurs en Bretagne sont bien accueillis.
On n'est pas sur un sentiment d'identité. Voilà, on ne va pas demander aux gens de Nantes d'apprendre le breton. C'est d'un point de vue, il faut bien comprendre que c'est d'un point de vue, nous on parle d'un point de vue géographique.
Administratif,
économique.
Et démocratique. Voilà. Parce que c'est aussi, il faut toujours revenir à ça, d'après les sondages, et c'est pour ça qu'on demande par cette pétition l'organisation d'une consultation des citoyens. D'après les sondages, 2/3 des gens sont en faveur de la réunification de la Bretagne. Donc, à un moment, c'est la démocratie. Et s'il y a cette pétition, c'est effectivement, il y a ce droit d'option. Comme il y a ce droit d'option, ça veut dire que changer de département, ça devient une compétence du département. Et donc, le département peut organiser une consultation sur cette compétence. Et à partir de là, on demande à Philippe Grosvalet d'organiser cette consultation. Et après, c'est la vérité du choix démocratique des habitants. Et c'est ça, la démocratie. Et je pense que c'est vraiment ça le problème de notre crise démocratique dans laquelle on vit. C'est les gens ont l'impression qu'il y a une élite un peu perchée qui ne prend pas en compte les aspirations populaires. Alors c'est peut-être faux, hein, c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais l'idée c'est de remettre dans le système de la démocratie pour que les gens se retrouvent enfin en se disant on est quelque part dans un pays qui prend mieux en compte l'aspiration des gens. Et si vous écoutez actuellement les débats des primaires socialistes, il y a quand même pas mal de candidats qui portent ça. Donc, voilà, donc c'est...
Pour revenir sur votre question quand même, donc, tout à l'heure nous avons dit que 10% de la population était hostile à la limite, on va dire ça comme ça, hostile à la réunification de la Bretagne. Alors pour autant, est-ce que ces 10% de gens doivent bloquer un processus démocratique?
Et beaucoup par méconnaissance finalement.
Et ils ont leur opinion.
On s'est rendu compte d'une chose, parce qu'effectivement, quand vous lirez la pétition, vous verrez que on demande en priorité la démocratie, c'est-à-dire la possibilité aux gens de s'exprimer. Et on s'est rendu compte que, en faisant signer des pétitions, en particulier sur des bureaux, à la sortie des bureaux de vote, nous avons fait signer cette pétition à des gens qui étaient contre la réunification, qui étaient des pro-Grand Ouest ou des pro-Pays de la Loire, mais qui nous ont dit « je la signe parce que je veux donner mon avis ». Nous, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit, c'est pas vous êtes pour ou contre la réunification, là n'est pas le sujet. C'est que nous voulons faire une consultation populaire pour que les gens donnent leur avis. Êtes-vous contre ou êtes-vous pour? C'est tout.
Ici en Loire-Atlantique, les grands élus sont dans une idée du Grand Ouest, donc quelque chose qui est
Stéphane Briand.
Les pays de la Loire en plus gros, donc ça veut dire quelque chose qui n'existera pas, qui n'existe pas ni dans la tête des gens, ni dans le monde de l'entreprise. Le Grand Ouest, c'est pas une marque sur laquelle on peut communiquer, c'est pas une aspiration sur laquelle les citoyens peuvent se retrouver et retrousser ensemble leurs manches pour définir collectivement un projet collectif. Il y a vraiment, sur la base des vraies régions, qu'on peut faire bouger les communautés humaines, faire qu'elles aillent défendre ensemble des projets, développer des solidarités, et voilà, donc tout ce qui est technocratique, c'est vraiment la technocratie telle qu'on la voit avec le Grand Ouest, ou avec le Grand Est, les Hauts-de-France, ou ce qu'on veut, c'est la négation des habitants, c'est la négation de leur citoyenneté, et c'est aussi un peu ce qu'on a pu retrouver dans les États totalitaires, où on pense faire l'homme nouveau en le débarrassant de toute son histoire, de sa culture, de ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire que on participe à plusieurs histoires différentes, on a des sensibilités différentes, mais tout ça, ça crée des identités collectives. Et quand on veut remplacer ces identités collectives par des nouvelles identités, on est quand même en danger et on retrouve des réflexes un peu d'état totalitaire. Jean-Marc Ayrault est revenu au gouvernement en tant que ministre des Affaires étrangères, et donc il y a une élection partielle d'organiser sur la 3e circonscription de Loire-Atlantique, donc c'est Nantes-Ouest, Saint-Herblain, Couëron et puis le Temple de Bretagne, Vigneux de Bretagne d'ailleurs, et à cette occasion on a annoncé qu'on allait tester notre pétition à la sortie des bureaux de vote, et là on a eu pendant des jours et des jours une pression énorme de la préfecture nous disant qu'on n'avait pas le droit de faire signer une pétition à la sortie des bureaux de vote, ils voulaient absolument qu'on n'y aille pas, donc on leur a dit donnez-nous les textes de loi qui fait qu'on n'a pas le droit, et puis on les appliquera, on est légaliste. Et du coup, ils nous ont jamais répondu. On a récupéré la circulaire qu'ils avaient envoyée à tous les maires de la circonscription. Et bon, bah, on a récupéré parce qu'on a des antennes aussi un peu partout. Et dans cette circulaire, il était bien indiqué quelles étaient les limites de notre action. C'est-à-dire qu'on ne devait pas perturber le processus électoral. Mais à partir du moment où on ne créait pas de problème, où les gens pouvaient voter naturellement et qu'on n'allait pas perturber ce processus, on pouvait le faire. Donc on y a été, on a fait signer, on s'est rendu compte que ça marchait très bien, que les gens étaient plutôt contents de pouvoir signer.
Reportage sur la pétition des 100 000 lancée par l'association Bretagne Réunie.
On a besoin de 100 000 signatures, parce qu'avec 100 000 signatures, ils sont légalement obligés d'inscrire à l'ordre du jour l'organisation de cette consultation populaire. Et donc on verra au sein de l'Assemblée départementale qui sont les démocrates. Il y a beaucoup de professions de foi en démocratie. Voilà, plus démocrate que moi, tu meurs. Et ben on verra au moment où il y aura ce vote à la session du Conseil départemental, ben, qui fait confiance au peuple et qui veut garder le pouvoir et ne pas redonner une partie du pouvoir aux mains des citoyens à travers leur vote.
Un mot pour rappeler le texte de cette pétition. On signe pourquoi ?
Alors, c'est une pétition, ce n'est pas une pétition pour la réunification de la Bretagne, c'est une pétition pour que le Conseil départemental organise une consultation des électeurs pour savoir si oui ou non notre département va en région Bretagne. C'est-à-dire qu'une personne qui est contre la réunification de la Bretagne peut très bien signer la pétition parce que le choix sera fait au moment du vote et pas au moment de la pétition. La pétition, c'est vraiment une pétition pour une consultation. Pour l'organisation d'une consultation par le Conseil départemental.
Mais tout le monde peut signer.
Alors pour signer, c'est uniquement les électeurs de Loire-Atlantique qui peuvent signer. On appelle ça pétition des 100 000 parce qu'en Loire-Atlantique, on arrive à 97 000
le
électeurs.
Le dixième du nombre des électeurs.
À 100 000 signatures.
Aujourd'hui, vous êtes à 20 000, c'est ça ?
Aujourd'hui, on est à un peu plus de 20 000. Hein, donc, ce qui représente... Alors, 20 000, ça peut paraître pas beaucoup, mais 20 000, si on ramène ça à l'échelle de la France, ça correspond à 1 million de signatures. Et donc, c'est vraiment énorme, 1 million de signatures papier. La signature Internet n'est pas reconnue par la préfecture, donc c'est énorme, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Par exemple, la pétition contre la loi travail de 2016, c'était une pétition sur Internet, donc beaucoup plus facile d'accès, n'importe qui peut signer de chez lui, c'est plus simple. Elle a récolté plus d'un million de signatures. Nous, on arrive à l'équivalent d'un million de signatures, si on doit approcher ça à l'échelle de la France. on est vraiment sur quelque chose qui marche bien, qui n'a jamais été fait, et on va avoir nos 100 000 signatures. L'objectif, c'est de les avoir le plus rapidement possible, donc ce serait de les avoir en 2017, pour qu'à la manifestation du 30 septembre 2017, on puisse remettre officiellement à Philippe Grosvalet, au conseil départemental, les 100 000 signatures, et que voilà, qu'il soit obligé, il sera obligé d'inscrire à l'ordre du jour l'organisation de cette consultation citoyenne, et on verra quels seront les conseillers départementaux qui voteront pour ou contre le fait d'interroger les électeurs sur cette question.
J'ai du mal à me faire une opinion sur si c'est beaucoup ou pas beaucoup.
Alors, déjà, dans un premier temps, comme dans tous les processus, il faut que les gens soient déjà au courant de cette pétition. Après, qu'ils comprennent l'intérêt de cette pétition, c'est-à-dire que ce n'est pas une énième pétition, non, c'est quelque chose de légal. Là, on s'appuie vraiment pour la première fois sur deux outils légaux, c'est-à-dire le droit de pétition, donc 10% de signatures du corps électoral, pour obliger à mettre en œuvre le droit d'option au travers de cette consultation populaire. Après, effectivement, les gens signent, on a besoin, en fin de compte, on fait appel aux volontaires pour venir nous aider à faire signer la pétition, et donc on sera à la sortie du bureau de vote des primaires à gauche des 22 et 29 janvier, on sera à la sortie des bureaux de vote du premier tour et deuxième tour de l'élection présidentielle, et premier et deuxième tour des élections législatives. Donc là, on va avoir 6 grands rendez-vous qui vont permettre d'accumuler les pétitions, et il faut savoir qu'une personne qui fait signer à la sortie d'un bureau de vote dans la journée, et ramasse 100 signatures. En gros, on fait entre 15 et 20 signatures à l'heure à la sortie des bureaux de vote. Sur les marchés, c'est pareil. Quand on fait une pétition sur un marché, on fait entre 15 et 20 signatures par heure. Donc après, tout est une question pour réussir, en fin de compte, à gagner le pari des 100 000 signatures. C'est une question d'avoir suffisamment de volontaires qui viennent nous aider à faire signer la pétition à la sortie des bureaux de vote, sur les marchés, à la sortie d'un match de foot, à la sortie de spectacle et tout ça, quoi.
Une fois ces 100 000 signatures recueillies,
Une fois les 100 000 signatures recueillies, on les dépose sur le bureau du président Grosvalet. Il n'aura pas le choix. La loi l'oblige à inscrire ça à l'ordre du jour de la session du conseil départemental. Et là, on verra après, ce que je disais tout à l'heure, qui sont les vrais démocrates. Ils se disent tous pour la démocratie. On verra ceux qui font confiance aux citoyens de l'Atlantique et ceux qui refusent de déléguer une partie de leur pouvoir à travers cette consultation.
Il faut consulter uniquement les citoyens de l'Atlantique et pas les citoyens des 4 autres départements.
Alors, nous, on s'appuie sur la loi. Le droit d'option, c'est un département qui change de région pour aller dans une région voisine. Donc après, si les Vendéens veulent aussi activer ce droit d'option pour savoir dans quelle région ils veulent habiter, les Mayennais, les Sartois, à chacun, dans le cadre de la loi, d'organiser, comme nous on le fait, un processus pour dire, nous on est Angevin, on veut plus aller vers la région Val-de-Loire, à eux de l'organiser. Mais c'est pas à nous, Bretagne Réunie, de dire aux gens où vous devez aller, c'est à chacun de se prendre en main.
Pour les habitants des 4 autres départements bretons, qui se cherchent, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'accepter les gens de l'Euratlantique.
Alors après, nous, on s'appuie toujours sur les sondages. Et donc, le conseil régional qui a la compétence pour dire oui à l'arrivée de la Loire-Atlantique en Bretagne administrative, le conseil régional, vu que c'est une de ses compétences, pourra toujours organiser un référendum, une consultation des habitants des 4 départements de la Bretagne actuelle, pour leur demander si oui ou non ils sont d'accord pour que la Loire-Atlantique rejoigne la région Bretagne. Bretagne Réunie, son objet, c'est la réunification de la Bretagne. Donc, même si on est sensible à ce qui se passe en France et dans le reste de l'Europe, on ne va pas multiplier nos combats, nos forces, on les concentre sur la pétition. Après, c'est à chaque population localement de se battre pour obtenir ces choses. C'est vrai que les Hauts-de-France, pour moi, c'est une aberration. Le Grand Est, c'est une aberration. Donc à un moment, les Alsaciens se battent pour retrouver leur Alsace. Mais on ne peut pas non plus être les grands géographes de l'ensemble de la France. Nous, on s'intéresse à ce qui se passe pour nous avec la réunification de la Bretagne. Donc forcément, les conséquences que ça a sur la région Pays de la Loire avec son éclatement en plusieurs régions. Après, on ne va pas disserter sur quel est le découpage idéal de l'Hexagone. C'est vrai qu'on partait plus sur une idée d'une quinzaine de régions, en fin de compte, avec la suppression des départements, ce qui était paru dans le rapport Balladur. Ça paraissait vraiment, ou même on aurait pu garder même plus de régions, parce que Mais ce qui compte pour nous, c'est de mettre la démocratie au cœur de la décision. Et donc c'est aux populations des différentes régions aussi de s'organiser pour être en capacité de faire le travail de lobby et de pression sur les élus, sur les députés, sur le futur président, pour obtenir des régions qui leur ressemblent, quoi.
Merci à Paul Loret, Henri Collois et Stéphane Briand pour leur libre participation à ce reportage sur la pétition lancée par l'association Bretagne Réunie afin de demander au Conseil départemental de Loire-Atlantique d'organiser une consultation auprès de ses électeurs au sujet de la modification des limites régionales en incluant le département de Loire-Atlantique dans le territoire de la région Bretagne.
Donc on vous retrouve pour conclure régulièrement sur les marchés et puis les 22 et 29 janvier prochains.
Oui, et à la sortie des bureaux de vote aussi pour l'élection présidentielle et les élections législatives. Et donc on a besoin d'un maximum de volontaires. Plus on sera nombreux, plus vite on aura fini cette pétition et plus vite on ira au conseil départemental porter toutes nos feuilles. Et voilà, donc une personne seule, c'est 100 signatures à la journée. Donc si 1000 personnes viennent nous aider en une journée, on a les 100 000 signatures.